VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 9 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En Côte d'Ivoire, le président Ouattara appelle la population à vaquer à ses occupations après l'accord intervenu avec les soldats mutins.
En Gambie, une autre station de radio privée, Paradise FM, a été fermée hier soir par les autorités.
Hissène Habré, le président déchu du Tchad, sera jugé en appel à partir d'aujourd'hui à Dakar.
Le Maroc, sans gouvernement, se réveille ce lundi en mode de crise politique.
4 soldats israéliens tués et 17 blessés hier par un Palestinien qui a lancé son camion contre eux à Jérusalem.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, les activités économiques reprennent progressivement à Bouaké et dans toutes les grandes villes du pays touchées par la récente vague de mutinerie, et ce au lendemain d'un accord trouvé entre le gouvernement ivoirien et les soldats mutins. Selon le porte-parole de ces derniers, Siaka Ouattara, de la Marine nationale, les soldats se disent satisfaits maintenant. Et le président Alassane Ouattara a appelé la population à vaquer à ses occupations, assurant que la situation est rentrée dans l'ordre. D'Abidjan, notre correspondant Narita Namasté.
Après 2 jours de mutinerie, retour au calme dans les villes touchées par cette contestation militaire en Côte d'Ivoire. La colère des militaires semble être atténuée après un accord obtenu entre le gouvernement ivoirien et les mutins. Alassane Ouattara, chef d'État, chef suprême des armées, a donné son accord afin de répondre favorablement aux différentes revendications de ses militaires issus de l'ex-rébellion et a demandé à ses hommes de regagner les casernes. Consigne reçue, consigne exécutée. À Abidjan, la capitale économique, les barrages ont été levé, pareil à Mans dans l'ouest ivoirien, également à Korogo dans le nord. Dans le centre-ouest du pays, à Bouaké, les corridors sud et nord ont été libérés. Les transporteurs et les commerces ont repris leurs activités. Le retour en caserne des soldats mutinés est effectif. L'exécution de certaines promesses faites prend effet ce lundi. Pendant ce temps, l'élection du président de l'Assemblée nationale aura lieu ce lundi et la grève générale des travailleurs de la fonction publique prend effet ce même jour. L'opposition, quant à elle, reste muette face à cette crise. Le parti au pouvoir dénonce une défaillance dans la chaîne de commandement des décisions militaires. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
La radio privée gambienne Paradise FM, l'une des plus populaires du pays, a été fermée hier soir par les autorités. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès de sources au sein de cette station, une semaine après une mesure similaire frappant 3 autres radios. Quelques heures auparavant, dans l'après-midi, la radio avait longuement donné la parole au porte-parole de l'opposition, Khalifa Sala, ainsi qu'à un dirigeant du parti au pouvoir, Yankuba Koli. Le président sortant Yahya Jammeh refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle du 1er décembre face à l'opposant Adama Barrow.
Le président tchadien déchu Hissène Habré sera jugé en appel à partir d'aujourd'hui à Dakar. Ce sera 7 mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain au terme d'un procès inédit censé servir d'exemple pour le continent. Hissène Habré, 74 ans, a été condamné le 30 mai dernier pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal où il s'était réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Le gouvernement nigérian reste mobilisé pour parvenir à la libération des jeunes filles enlevées il y a presque 3 ans dans la localité de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a fait cette déclaration à l'occasion des 1000 jours de captivité de 195 de ses filles enlevées par Boko Haram. Gabi Dorsil.
Après la libération de 21 des plus de 200 écolières enlevées par le groupe islamiste nigérian en avril 2014, plus rien n'a été dit des autres. Mais pour marquer les 1000 jours de leur captivité, le président Buhari a rappelé la volonté de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ces 195 otages puissent regagner leur famille. « La douleur est dans nos cœurs », a dit le chef de l'État. À Abuja, des activistes du groupe Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, se sont déclarés prêts à marcher jusqu'à la résidence présidentielle. Si la fille du président Buhari avait été enlevée, resterait-il les bras croisés? Ces jeunes filles sont des Nigérianes, tout comme sa propre fille, a dit une représentante du groupe. L'armée nigériane a annoncé jeudi dernier avoir retrouvé une autre lycéenne de Chibok. Si ce dossier a mobilisé l'attention au Nigeria et à travers le monde, il faut se rappeler que Boko Haram a kidnappé des dizaines de milliers de personnes durant ce conflit qui a fait au moins 20 000 morts.
Le Maroc sans gouvernement se réveille ce lundi en mode de crise politique. Pourtant, le Premier ministre Abdelilah Ben Kirane avait suscité des espoirs la semaine dernière en annonçant qu'un cabinet allait être mis en place avec les mêmes partis qui formaient la précédente coalition. Précision de Jean-Roger Bion.
Vendredi, le Premier ministre Ben Kirane s'était montré optimiste quant à la formation de sa nouvelle équipe gouvernementale. Mais tout semble avoir basculé au cours du week-end, car il a annoncé hier soir la fin des négociations avec deux partis qui devaient rejoindre la coalition. Le Rassemblement national des indépendants et le mouvement populaire n'auraient pas agi, selon le souhait du Premier ministre marocain, qui, dans un communiqué laconique, a dit refuser de discuter avec ces deux formations politiques. Le RNI et le MP voulaient négocier de concert avec d'autres groupes qu'Abdelilah Ben Kirane refuse d'inviter dans son futur gouvernement. Son parti, le Parti Justice et Développement, est sorti vainqueur des législatives du 7 octobre et le roi Mohamed VI a reconduit M. Ben Kirane à la primature. Cependant, il n'arrive pas à débloquer la situation après 3 mois de pourparlers avec la classe politique marocaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, à la suite des conclusions des services de renseignement américains sur l'ingérence russe dans la présidentielle du 8 novembre, le président Barack Obama a avoué avoir sous-estimé l'impact qu'une campagne de piratage et de désinformation pouvait avoir dans des démocraties. M. Obama, dont le mandat se termine le 20 janvier, a dit à ABC News qu'il ne pense pas avoir cependant sous-estimé Vladimir Poutine lui-même, le président russe que les services de renseignement accusent d'avoir ordonné les efforts visant à saper le système américain d'élection démocratique et la candidature de Hillary Clinton, la rivale du président élu Donald Trump.
4 soldats israéliens ont été tués et 17 blessés hier lorsqu'un Palestinien a lancé son camion contre un groupe de militaires en excursion à Jérusalem. L'assaillant, un habitant de Jérusalem-Est, a été tué par balle. Il serait, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, un sympathisant du groupe État islamique. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début d'une vague de violence entre Israéliens et Palestiniens à l'automne 2015.
Les dirigeants chypriotes, grecs et turcs reprennent aujourd'hui à Genève, sous l'égide des Nations Unies, des négociations vues comme une chance historique de réunifier l'île méditerranéenne, divisée depuis plus de 40 ans. Mais leur issue reste incertaine. À partir de jeudi, suivra une conférence sur Chypre, toujours à Genève, avec la participation additionnelle des représentants des puissances dites de cautionnement, qui sont la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni, anciennes puissances coloniales, a indiqué le service d'information de l'ONU.
En Turquie, le projet de révision constitutionnelle qui vise à renforcer les prérogatives du président Recep Tayyip Erdogan, adopté en commission, doit encore être voté au Parlement où il va être soumis à partir de ce lundi. Ce projet prévoit le transfert du pouvoir exécutif du Premier ministre au président et pourrait potentiellement permettre à M. Erdogan, élu chef de l'État en 2014 après 3 mandats à la tête du gouvernement, de rester au pouvoir jusqu'en 2029.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué l'ex-président Akbar Hashemi Rafsanjani, mort dimanche, comme un compagnon de lutte en dépit des différences. Et ce, dans un message publié par les médias iraniens. Ali Khamenei a ajouté que ces différences n'avaient jamais réussi à rompre totalement leur amitié.
Le député hongkongais Nathan Law, figure des manifestations pro-démocratie de 2014, a été attaqué hier soir à l'aéroport de Hong Kong par des partisans de Pékin à son retour d'une conférence politique à Taïwan. Plusieurs manifestants attendaient Nathan Law, le plus jeune membre du conseil législatif, le Parlement de Hong Kong, dans le hall des arrivées de l'aéroport, selon des images diffusées à la télévision locale. L'élu de 23 ans a été accueilli par des insultes de ses manifestants qui lui ont aussi jeté du liquide au visage. Certains ont tenté de le frapper, tandis que les forces de police peinaient à le protéger. Deux personnes ont été arrêtées, selon certains médias, ce que la police n'a pas confirmé. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Anastasie Toudièche.
Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, a mis en demeure l'ancien directeur de l'urbanisme et de l'habitat du Sénégal, Mamadou Diagne, de s'expliquer sur son patrimoine, estimé à 5 milliards de francs CFA, rapporte la presse locale. L'aéroport international de la capitale nigériane Abuja sera fermé pendant 6 semaines à partir du 8 mars pour réhabiliter la piste devenue dangereuse. Les passagers pourront faire le trajet Abuja-Kaduna selon leur portefeuille, soit par hélicoptère, soit par bus, avec des mesures de sécurité renforcées, plusieurs enlèvements ayant eu lieu récemment sur cet axe. Fin de résidence surveillée pour Benny Steinmetz. Le milliardaire franco-israélien avait été interpellé le lundi 19 décembre à Tel Aviv pour des faits présumés de corruption dans l'exploration des gisements guinéens de fer entre 2005 et 2014. L'interpellation du milliardaire par la police intervenait dans le cadre d'une enquête internationale qui concerne la Guinée. Benny Steinmetz et plusieurs Israéliens vivant à l'étranger sont en effet suspectés d'avoir payé plusieurs dizaines de millions de dollars de pots de vin à des cadres de la fonction publique guinéenne.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La préparation de la CAN qui s'intensifie, le Burkina qui affrontait le Mali en match amical au Maroc.
Oui, et cette victoire de 2-1 des étalons face aux aigles. Ouverture du score de Zongo avant la mi-temps. Deuxième but de Bertrand Traoré à l'heure de jeu et c'est Moustapha Yatabaré qui a réduit la marque pour les Maliens. Battu par une équipe locale du Maroc pour son premier match de préparation, les Burkinabés se sont bien repris. Les Aigles, eux, disputeront une deuxième rencontre de préparation face au Maroc jeudi prochain.
Un second match de préparation également pour l'Algérie, cette fois-ci face à la Mauritanie.
Avec un succès 3-1 des Fennec Ablida, les Mourabitounes avaient pourtant ouvert le score et mené à la pause. Mais Anis Bounedjad et Ben Taleb ont fait la différence pour les Algériens en seconde période. Deuxième match de préparation et deuxième victoire pour l'Algérie. Et sachez que les deux équipes se retrouveront cette semaine pour un nouveau match amical.
Mais en attendant, le sélectionneur de la Mauritanie rempile pour 2 ans.
Corentin Matist va encore occuper le poste d'entraîneur de la Mauritanie pour 2 ans. Nommé en décembre 2014, le technicien français a vu son bail prendre fin le 31 décembre dernier. Mais la fédération mauritanienne a annoncé que l'ancien coach de Brest a prolongé son contrat de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019.
Ses préparations pour la CAN 2017, Élisée, sont également marquées par des conflits sur les primes des joueurs au Zimbabwe.
Effectivement, Idrissa, ce qui pouvait gâcher le retour des Warriors après 11 ans d'absence à la CAN. Contraints de préparer dans des conditions déplorables depuis le début de leur stage et réclamant le versement des primes de qualification, les joueurs du Zimbabwe ont refusé de s'envoler pour le Cameroun où ils devraient poursuivre leur préparation.
Direction la Guinée-Conakry, avec la 4e journée du championnat. Un match seulement était au programme ce week-end.
Occasion pour Wakria de poursuivre son invincibilité dans ce championnat. 4e match sans défaite et une 2e victoire, cette fois face aux militaires d'Asfag, score 2-1. 8 points pour le promu qui occupe actuellement la 2e place. Suite de cette 4e journée aujourd'hui avec Afia qui rend visite à Feindou. Le reste des rencontres demain avec le choc entre Oroya et l'AS Kaloum. Et puis pour finir avec vous Idrissa, les résultats des matchs joués cette nuit à NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Philadelphia, Brooklyn Nets 105-95, Washington, Milwaukee 107-101, Miami, Los Angeles Clippers 86-98, Houston, Toronto 129-122, Utah, Memphis 79-88, Cleveland Phoenix 120-116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis, la Côte d'Ivoire, où la vie a repris son cours normal, notamment à Boaké, dans le nord, où une mutinerie avait éclaté la semaine dernière, avant de se propager dans d'autres villes du pays. Le gouvernement ivoirien a pu finalement trouver un accord avec les mutins qui revendiquaient des primes et de meilleurs traitements au sein de l'armée. Les autorités d'Abidjan n'avaient pas rejeté leur demande, mais la forme de leur mouvement en a inquiété plus d'un. Sur les dessous de cet accord et ses retombées éventuelles, Gabi Dorsil a joint l'analyste politique André Silver Conan.
Ce qui s'est passé est très simple. Si vous voulez, la remise sur la couche d'une vieille revendication des militaires. Rappelez-vous, en novembre 2014, donc un peu plus de deux ans, des soubresauts avaient secoué donc certaines casernes et certaines garnisons du pays, en rapport avec des revendications d'ordres corporatifs, des frais, des primes, des questions d'avancement, des questions de logement. Voilà, ce sont ces mêmes revendications qui sont revenues sur la table avec presque les mêmes acteurs, puisque le porte-parole, le quartier maître Issiaka Ouattara, était déjà le porte-parole des mutins il y a un peu plus de deux ans.
Est-ce que les revendications de ces mutins leur étaient tout à fait particulières ou bien est-ce qu'ils posaient des problèmes confrontés par les forces armées ivoiriennes en général?
Non, c'était des problèmes particuliers. Vous noterez que malgré le fait que plusieurs villes ont été touchées, ça n'était pas la paralysie totale. Quand vous prenez par exemple un camp comme Akwedo, ou bien quand comme Agban dans le centre d'Abidjan, c'est le plus grand centre d'Abidjan, il y a juste quelques dizaines de militaires qui ont manifesté.
Comment le reste de l'armée a-t-il réagi face à la signature de cet accord?
Comme j'ai dit, si le reste de l'armée voulait s'interposer, ce serait un carnage, parce que il faut bien comprendre que les manifestants n'étaient pas forcément majoritaires. Le reste de l'armée a regardé les choses se faire, parce que d'abord, sachez que il y avait d'abord les anciens éléments des forces de défense de sécurité sous M. Bagbo, qui, ont eu des problèmes particuliers. Et donc, je ne dirais pas que c'est une armée divisée, mais c'est une armée qui est en train d'être construite.
Maintenant, le fait d'accepter les désiderata des mutins, est-ce que cela ne risque pas de fragiliser un peu le pouvoir, en sorte qu'il y aurait d'autres mouvements similaires dans le futur?
Oui, vous posez un problème très pertinent, mais le pouvoir avait-il le choix? Par exemple, là, il y a une grève des fonctionnaires qui est en vue. Je crains que le fait que les militaires aient obtenu gain de cause ne puisse galvaniser les fonctionnaires.
L'analyste politique ivoirien André Silver Conan nous parlait d'Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, en réponse à la manifestation organisée le mois dernier par la société civile pour dénoncer, et je cite, « les travers du régime du président Mahamadou Issoufou », les partis politiques de la majorité présidentielle ont tenu ce dimanche une contre-manifestation. Des milliers de leurs militants sont descendus dans la rue, scandant des slogans de soutien au président nigérien. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Chers amis, chers militants, bonjour. sortis de la place Toumo, les manifestants ont parcouru un peu plus d'un kilomètre pour se retrouver à la place de la Concertation avec comme slogan phare scandé et écrit sur les pancartes et autres t-shirts « Issoufou n'est pas seul ».
C'est un soutien inconditionnel que nous apportons au président Issoufou Mahamadou et au gouvernement. Il y a de grands efforts qui ont été faits pour construire notre nation. Et aujourd'hui, nous ne devons pas accepter que quelques individus en mal de leadership cherchent à détruire ce qui a été fait pour le bien-être de la population. Et Issoufou Mahamadou a donné la preuve qu'il est là pour construire ce pays.
Au-delà donc du soutien au président Issoufou Mahamadou, la manifestation se voulait également une réponse à celle organisée le mois passé par des organisations de la société civile qui sont en réalité, selon Mohamed Bazoum, le président du parti au pouvoir, manipulé par l'opposition politique, notamment le parti de Hama Amadou.
Les Nigériens, en répondant massivement à notre appel, ont dit non à ceux qui sont derrière cette société civile qui se couvre de son manteau, mais qui caresse des dessins politiques néfastes. Qui était à la place de la Concertation? C'est des militants du parti Lumana. Et ils pensent qu'ils sont représentatifs parce que tout simplement, ils ont réuni 4000 personnes. Nous avons décidé de les réunir 10 fois, 20 fois plus de personnes ici et leur dire que les élections sont terminées il y a 8 mois. Le même rapport de force qui s'est exprimé dans les urnes continue encore à prévaloir, que ce soit ici ou dans les autres villes du Niger. Voilà notre message. Nous considérons que nous avons remis les pendules à l'heure, que la discussion est terminée.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, la nouvelle plateforme dénommée Mouvement pour l'éveil citoyen, Messi, dérange le MPS, parti au pouvoir, ainsi que le gouvernement. En fait, le ministre en charge de l'administration du territoire a interdit toute activité de ce regroupement sur toute l'étendue du territoire. De N'Djamena, les explications de notre correspondant André Kotmadjingar.
C'est pour la première fois depuis 1990, date de prise du pouvoir par le président Déby, qu'un regroupement des différentes entités et corporations ayant pour fondement la refondation de la démocratie et des valeurs républicaines a fait bouger les hautes autorités de l'État. Alors qu'Idriss Déby et ses courtisans ont comme slogan « Le chien aboie, la caravane passe ». Mais cette meute de chiens sous la coupe du Messie retient l'attention particulière de la caravane. Car après les sorties médiatiques du MPS, des partis politiques de la majorité présidentielle et d'une coalition proche du pouvoir dénommée « Touche pas à mes acquis », demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités face à ce regroupement, le ministre en charge de l'administration du territoire, Bachar Ali Souleyman, sort de son silence.
« Ce regroupement qui s'est fait sans aucune base légale établisse un partenariat séditieux avec des organisations dites rebelles dans l'objectif de troubler la paix et l'ordre public interne. Sur la base du droit positif, le ministère en charge de l'administration du territoire effectuera une évaluation de la situation et donnera toutes les suites pénales, administratives et législatives qu'impose cette initiative qui ne saurait être tolérée. En attendant, toute activité de la plateforme dénommée Mouvement d'éveil citoyen est interdite.
Pour Nasra Dimassengar, l'un des porte-parole du Messie, la peur a changé de camp.
Le gouvernement lui-même dit qu'il n'existe pas de mouvement armé au Tchad aujourd'hui. Donc on ne peut pas être de connivence avec un groupe qui n'existe pas. Nous n'allons pas avoir peur d'une déclaration visant à nous intimider. Nous allons continuer nos activités normalement. Que le ministre vienne donc fermer la porte des partis politiques et des associations et tout le monde saura que c'est un retour à la dictature.
Face à ce bras de fer entre le mouvement pour l'éveil citoyen et le régime MPS, voici l'analyse du professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste, indépendant et enseignant chercheur à l'université de N'Djamena.
Le problème n'est pas du tout juridique. La question porte sur les fondements de ce regroupement. Le fondement de ce regroupement porte sur les causes et les responsabilités de la crise. Donc ça braque le gouvernement dans une sorte d'accusé. Au lieu de porter sur la recherche de solutions à la crise. Si les uns et les autres s'entêtent, il y aura d'une part un gouvernement qui va mettre toutes les dispositions, notamment sécuritaires. Alors le débat risque d'être tranché dans la rue et c'est ce qui est dommage.
André Kodmatingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Dakar le procès en appel de Hissène Habré, l'ancien chef d'État tchadien de 1982 à 1990, a été condamné à la prison à perpétuité en première instance lors de son procès qui s'est tenu devant les chambres africaines extraordinaires l'an dernier. Monsieur Habré a aussi été condamné à payer entre 15 000 et 30 000 euros à chaque victime. Mais il n'a jamais reconnu cette cour, cofinancée par l'Union africaine et des pays occidentaux. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle étape judiciaire dans l'affaire Habré? Eh bien, Abdourahmane Dia a joint à Dakar, au Sénégal, Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires.
À l'issue de ces différents échanges juridiques entre les différentes parties, le président va suspendre la séance pour permettre à la Chambre de délibérer. En principe, le délibéré devrait durer au bas mot 3 mois. Toujours est-il que, à la fin du mois d'avril, le jugement définitif devrait être connu de tout le monde.
Cette fois-ci, le procès devrait être plus court que celui en première instance.
Évidemment, évidemment, parce qu'on ne revient pas sur les faits. Là, il s'agit de débattre du droit. Autrement dit, voir si le droit a été bien appliqué. Voilà pourquoi on va vers une bataille juridique, voyez, entre les différents avocats.
On sait que lors du procès en première instance, M. Hissène Habré avait refusé dans un premier temps de se présenter et il continue de rejeter la légitimité de la Cour. Qu'est-ce qui pourrait se passer lundi? Est-ce que vous pensez qu'il va se présenter cette fois-ci?
C'est une question qui relève de la prérogative du président. Alors, si le président estime que la présence de M. Hissène Habré est indispensable, eh bien, M. Hissène Habré recevra une convocation en bonne et due forme. Et s'il refuse de comparaître, eh bien, il sera obligé, disons, par la force.
Mais comment est-ce qu'on compte indemniser plus de 7000 victimes quand on sait que M. Hissène Habré ne collabore pas avec la Cour aujourd'hui?
J'avoue que c'est une question qui me dépasse un peu parce que je ne sais pas exactement quelles sont les possibilités de M. Hissène Habré pour faire face à toutes ces indemnités-là. Mais il est évident qu'à l'issue du procès, la Chambre va déterminer les modalités de paiement de ces différentes indemnités. Donc n'anticipons pas sur le jugement de la Chambre. Quand il sera prononcé ce jugement, on verra plus clair. Est-ce que c'est à l'État tchadien de verser la moitié? Est-ce à l'Union africaine de le faire? Est-ce aux différents partenaires qui ont aidé à l'organisation du procès?
C'était Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires, la cour qui siège à Dakar, au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Fresh
grow. Wow. My will. Send flowers, but you said you didn't receive. Mike Will. That girl is a real crowd.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.